Voilà, bonjour à tous. Je suis heureuse de vous voir si nombreux pour cette soirée sur Maître Eckhart et très heureuse aussi d'accueillir Éric Mangin, que certains d'entre vous peut-être connaissent, que d'autres peut-être vont entendre pour la première fois. Donc Éric Mangin est maître de conférence à la faculté de philosophie de l'Université catholique de Lyon depuis 2003. Il est actuellement doyen de la faculté de philosophie. Il a à la fois une formation en philosophie et en théologie, et il a soutenu, son habilitation à diriger des recherches en 2014, c'est-à-dire de façon relativement récente. Et je pense que l'ouvrage que nous présentons aujourd'hui est le fruit de son habilitation, peut-être pas l'unique, mais en tout cas un des aspects de son habilitation. Et donc je présente très brièvement tel ou tel ouvrage d'Éric. Donc tu as fait un certain nombre de traductions, d'après ce que j'ai vu. La traduction du commentaire du Notre Père de Maître Eckhart, La mesure de l'amour, sermon parisien, et encore sermon, traité, poème, les écrits allemands, donc 2009, 2012, 2015. Mais tu as écrit aussi une première monographie, dès 2012, Maître Eckhart ou la profondeur de l'intime, publié au Seuil, et l'ouvrage qui vient vraiment de sortir, parce que moi je le vois, je l'ai vu, disons il y a 2 heures pour la première fois, La nuit de l'âme, l'intellect et ses actes chez Maître Eckhart, et cette fois-ci publié aux éditions Vrin. Et donc c'est cet ouvrage qui va être le cœur de notre soirée. Et bon, évidemment, je n'ai pas pu le lire, vous imaginez, en moins de 2 heures, donc je ne ferai qu'introduire le propos d'Éric. Comme il le note lui-même, Maître Eckhart accorde une grande place à l'intellect dans la connaissance de Dieu, mais dans son élan pour atteindre la vérité, l'intellect fait l'expérience d'une certaine cécité. Il ne parvient jamais à saisir ce qui est là, caché dans le creux de son être. Alors la question est la suivante, est-ce que c'est là un obstacle ou n'est-ce pas plutôt ce qui définit la nature même de notre pensée? Et peut-être avez-vous noté la belle citation que Eric avait choisi d'indiquer sur le prospectus qui annonçait la conférence, et que je lis, « Dans la nuit, quand aucune créature ne brille ni ne jette un regard dans l'âme, dans le silence où rien ne parle à l'âme, la parole est prononcée dans l'intellect. » C'est une citation du sermon 70. Alors ce livre est une enquête sur les actes de l'intellect à travers l'analyse des principaux verbes employés par Maître Eckhart pour décrire ce qui se passe dans l'âme. Alors, en parcourant la table des matières, vous rencontrez les verbes suivants, mais je laisserai Éric expliquer la logique de son propos. Dépouiller, élever, unir, saisir, s'émerveiller, chercher, prêcher. Voilà donc quelques verbes qui, je pense, vont être au cœur de notre soirée. Alors Éric, je te remercie encore d'avoir accepté notre invitation et nous t'écoutons maintenant. Et comme d'habitude, dans un premier temps, donc Éric va exposer, nous donner un peu l'essentiel de cet ouvrage, et ensuite nous aurons un échange et une discussion. D'avance, merci.
Eh bien, à mon tour, merci. D'abord, merci à la faculté de philosophie qui nous accueille. Merci à toi, Isabelle. On se connaît depuis un petit moment. Donc, c'est vrai que c'était bien l'occasion de cette soirée de travailler un peu plus ensemble. Un des fruits de l'habilitation, c'est d'écrire des livres. Un autre, c'est de devenir doyen. Et tu sais ce que c'est un peu moins agréable que des conférences comme ça entre nous. Merci aussi à vous d'être aussi nombreux. Au fond, j'ai eu beaucoup de chance depuis que j'ai commencé mes études, il y a très 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 longtemps, maintenant un doctorat en théologie à Strasbourg. Quand j'ai travaillé sur cet auteur, Maître Eckhart, je ne doutais pas en fait que ce serait un auteur qui aurait autant d'importance dans la pensée contemporaine. Et on est en général un chercheur heureux quand on a toujours des possibilités de travailler, d'écrire et de publier. Alors, je suppose que présenter un livre, c'est répondre à trois questions. La première question, c'est de quoi parle ce livre ? C'est son contenu. La deuxième question, c'est quelle est la méthode envisagée dans cet ouvrage et le plan qui est suivi. Et la troisième question, c'est quel est l'intérêt, au fond, de lire cet ouvrage. Du coup, je vous propose ce soir trois parties qui reprendront ces trois points bien distincts. Mais peut-être au préalable, une petite interrogation, parce qu'il y a sans doute parmi vous des gens qui connaissent très bien Maître Eckhart, d'autres peut-être moins. Donc je vais prendre le luxe ce soir, après tout on a un peu le temps, de vous présenter à ma façon, en introduction, qui est Maître Eckhart et ce qui m'a intéressé dans cet ouvrage. Maître Eckhart est donc un dominicain allemand qui est né en 1260 et qui est mort vers 1328 à peu près. Si vous retenez pas toute sa vie, c'est pas très grave. Retenez en fait que sa vie est partagée entre, d'un côté, des responsabilités pastorales au sein de son ordre, en Allemagne, dans les villes d'Erfurt, de Strasbourg et de Cologne. Et puis une deuxième activité, il a une activité d'enseignement universitaire à Paris, puisqu'il va enseigner à deux reprises à la faculté de théologie de l'Université de Paris. Ce qui est, alors en général enseigner à l'université à cette époque-là, c'était une ou deux années, hein, pas plus. Et il est l'un des rares, comme Thomas d'Aquin, c'est les deux seuls, qui ont enseigné à deux reprises à l'Université de Paris. C'est pour dire la grande importance que Maître Eckhart a au Moyen-Âge avec Thomas d'Aquin. Alors, il entre au couvent d'Erfurt dans les années 1274. La date certaine que nous avons, c'est la date de 1294, où on sait qu'il obtient le grade de bachelier sentenciaire de la faculté de théologie de l'Université de Paris. Plus simplement, il fait un commentaire du grand livre de Pierre Lombard qui s'appelle « Les sentences » et ce commentaire donne lieu à cette époque au premier grade universitaire. Après cet épisode parisien, il va devenir prieur du couvent d'Erfurt et il va écrire un livre superbe qui s'appelle « Les entretiens spirituels ». Peut-être le texte le plus facile pour aborder Maître Eckhart, un texte où on a déjà toutes les grandes idées de sa pensée, et puis un ouvrage un petit peu qui est un programme de toute la vie intérieure. Ensuite, l'Allemagne est une grande région au Moyen-Âge, l'ordre dominicain est tellement en expansion qu'on doit séparer l'Allemagne en deux parties, la Teutonie et la partie de Saxe, et lui va devenir prieur provincial pour justement cette région de Saxe, avec toutes les responsabilités administratives, institutionnelles et financières qui vont avec. C'est pas simplement un grand intellectuel du Moyen-Âge, on a des documents très intéressants qui montrent par exemple comment il doit écrire une lettre au maire de la ville pour l'extension d'un monastère, comment il écrit à Rome pour pouvoir ouvrir une communauté dans une nouvelle ville, donc vraiment un homme aussi d'action, très engagé dans la société et dans le monde. Ensuite, il va être également vicaire général auprès du maître de l'ordre à Strasbourg. Très intéressant comme période parce que parmi les fonctions, il va avoir l'accompagnement spirituel des religieuses dominicaines de toute la vallée du Rhin. Et quand vous voyez à peu près aujourd'hui à Colmar le musée d'Unterlinden, je ne sais pas si vous connaissez, ça vous donne un petit peu ce qu'étaient les couvents de dominicaines dans la vallée du Rhin à cette époque. Donc il s'occupe de tout l'accompagnement des dominicaines et puis également des béguinages de la ville de Strasbourg, c'est-à-dire des communautés de femmes qui vivaient, qui se sont développées dans les grandes villes et qui n'étaient ni religieuses ni épouses, qui avaient une vie communautaire, on en reparlera si vous le souhaitez. En tout cas, il va accompagner également toutes ces femmes à Strasbourg. Et puis à la fin de sa vie, il devient responsable des études à Cologne. Donc son ordre le nomme à une grande responsabilité puisqu'il s'occupe des études de théologie des dominicains. Donc vous voyez des responsabilités dans l'ordre très importantes, deux magistères parisiens, il viendra enseigner la première fois à Paris dans les années 1302-1303 et une seconde fois dans les années 1311-1313. À l'université, On fait en particulier des lectures, des grands textes, des questions disputées et des grands commentaires de l'écriture. À propos de Maître Eckhart, il nous reste quelques questions disputées. Alors parmi ces questions, il y avait la nature de Dieu. Est-ce que Dieu est plutôt l'être ou l'intellect? Thomas d'Aquin considérait que Dieu était plutôt du côté de l'être, et Eckhart va, lui, plutôt considérer que la question de Dieu est plutôt du côté de l'intelligé, c'est-à-dire l'intellect. Il va également faire des grands commentaires de l'écriture, de l'évangile de Jean, par exemple, et puis des sermons universitaires latins. Je ne vous cache pas qu'à la fin de sa vie, il va avoir quelques petites difficultés à Cologne, sans doute du fait de quelques jalousies au sein de son ordre qui vont suspecter un certain nombre de ses positions. Et puis ce procès va prendre de l'ampleur et va être porté à Avignon. Lui-même va se rendre à Avignon et il meurt sur le chemin du retour, probablement dans les années 1328, 1327. Il est intéressant de noter, donc dans la bulle qui repère un certain nombre de propositions téméraires ou malsonnantes, il est intéressant de voir la raison pour ce qu'on lui a reproché. C'est pas tellement le contenu de sa pensée que la forme et la manière d'écrire. Je vous cite un petit extrait de la bulle. Il a exposé sa doctrine principalement dans ses prédications devant le vulgaire crédule. Ça pose le problème de quelqu'un qui commence à écrire dans la langue vernaculaire et qui commence à diffuser des idées théologiques auprès d'un milieu qui n'était ni un milieu, qui n'était pas un milieu de clercs ou de religieux. Et la suite, il l'a même rédigé dans ses écrits, si encore il l'avait juste dit de manière orale. Mais en plus, il l'a rédigé dans ses écrits. Alors, je voudrais votre attention sur cette petite phrase qui est très significative, parce que, effectivement, dans l'histoire de la pensée, Eckhart est un auteur important, parce que c'est un des premiers à écrire dans la langue allemande, le vieil allemand, tout un ensemble de prédications, et même il constitue tout un vocabulaire très important pour la langue allemande et pour la littérature allemande. Luther, qui le lira quelques années plus tard, bien sûr, dira « il y a là un grand orfèvre de la langue allemande ». Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que ce pourquoi on l'a condamné à l'époque est très probablement ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un auteur qui est très intéressant, précisément à cause de cet aspect très littéraire de son œuvre, qu'on ne retrouve peut-être pas chez d'autres penseurs. Voilà, donc une œuvre écrite dans le latin savant, une œuvre universitaire, et toute une œuvre écrite également dans la langue vernaculaire de l'époque, c'est-à-dire le vieil allemand. Deuxième point de mon introduction. Il faut dire que Eckhart est un auteur, j'allais dire, classique d'une certaine manière, en tout cas fidèle à la tradition dominicaine allemande, et par conséquent, il accorde une grande importance à l'intellect. Au Moyen-Âge, il y a deux grands courants spirituels, les dominicains et les franciscains, et des débats, on va dire, universitaires, pour savoir est-ce que c'est l'amour ou la connaissance intellectuelle qui permet la relation à Dieu et la connaissance de Dieu. Les franciscains sont plutôt du côté de la volonté et de l'amour, les dominicains du côté de l'intellect. Donc on retrouve avec cette insistance sur l'intellect un Eckhart tout à fait fidèle à la tradition dominicaine allemande. En accordant une place importante à l'intellect dans la vie de l'esprit, dans la connaissance de Dieu et le bonheur de l'homme. Alors, ce dossier de l'intellect est un dossier très vaste. J'espère que l'ouvrage ne sera pas trop indigeste. Le problème du Moyen-Âge, c'est que c'est un peu comme les poupées gigognes. Vous savez, on ouvre une boîte, il y en a toujours une dedans, et comme ça, à l'infini. Donc, c'est très difficile de parler succinctement d'un auteur. Le terme d'intellect, depuis Aristote et son traité de l'âme, il y a traité d'Aristote, qui d'ailleurs s'intéresse à la question de l'intellect, mais qui pose plus de questions qu'il n'en résout. Et donc, Aristote va ouvrir toute une tradition de commentaires dans l'Antiquité et au Moyen-Âge sur la question de l'intellect, en arrivant à la crise qu'a connue Paris entre Thomas d'Aquin et les Averroïstes latins. Voilà. Donc, un débat très important. Je fais court, parce que ce débat est trop long. Eckhart arrive donc après cette querelle, ce débat. Et pour lui, qu'est-ce que l'intellect ? Alors, pour définir simplement les choses, l'intellect, chez lui, c'est d'abord une puissance de l'âme. au même titre que la volonté. La volonté est la capacité d'aimer, l'intellect est la capacité de connaître. Et on peut définir l'homme par un certain nombre de caractéristiques de détermination. L'homme est un être qui aime et un être qui connaît. Mais est-ce que ça suffit à définir ce qu'est l'homme? Est-ce qu'on peut entièrement déterminer la personne humaine? Et l'intellect, chez Eckhart, désigne encore une autre réalité. Ça définit quelque chose qui se situe dans l'âme. Ce n'est pas simplement une puissance de l'âme, c'est également un lieu dans l'âme. Un espace immense qui se situe dans l'âme, peut-être là où l'homme est à l'image de Dieu, en tout cas un espace qui est une profondeur absolument indéterminable. Ce qui veut dire par là qu'il y a en l'homme aussi quelque chose qu'on ne peut pas déterminer. Et cet intellect, il est aussi ce qui en l'homme est complètement inaccessible et indéterminé, et ce qui lui donne également la ressemblance avec Dieu. La connaissance intellectuelle, dans une tradition qui remonte à Aristote, est le plus grand bonheur pour l'homme. En d'autres termes, il est bon de penser, même si parfois c'est un petit peu difficile, un peu compliqué. En tout cas, Maître Eckhart est vraiment un de ces auteurs qui a essayé de décrire ce qu'était la connaissance intellectuelle. Mais, et c'est là l'originalité d'Eckhart, et peut-être du livre, en tout cas ce que j'essaye de montrer, c'est que dans cette tradition dominicaine allemande, Eckhart occupe quand même une place un peu particulière. En tout cas, il pointe dans son œuvre sur une difficulté fondamentale. C'est ça que je veux montrer. L'intellect ne parvient jamais complètement à percevoir ce qui est là, en lui, au plus profond de lui, ce qui se manifeste, mais toujours sur le mode de la dissimulation. C'est ce que je vais expliquer, donc j'aurai largement le temps de le redire. Il a des figures bibliques pour expliquer ça. Donc, Eckhart aime beaucoup employer des images, des figures, des métaphores. Il évoque tout d'abord la figure de Moïse dans l'Ancien Testament. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 20, Moïse qui s'approche de la nuée obscure où était Dieu. Oui, c'est peut-être le titre du livre. Bon, c'est pas tout à fait là que je l'ai pris, mais Moïse à la fois voit et ne voit pas. Ou plutôt, il voit que Dieu est au-delà des représentations et des images. Et pour Eckhart, cette cécité, en quelque sorte, cette difficulté de voir, est un mode d'accès supérieur à ce qu'est Dieu dans sa transcendance. Il donne aussi la figure de Marie-Madeleine, tout à fait différente, dans l'évangile de Jean, au chapitre 20. Marie-Madeleine qui se rend au tombeau pour s'occuper du corps de celui qu'elle a aimé, et ce qu'elle cherche, elle ne le voit pas, et ce qu'elle voit, le Christ ressuscité, elle ne le reconnaît pas. Donc dans deux de ses sermons, Eckhart nous dit, Marie-Madeleine est dans la même difficulté, elle ne voit pas ce qui est devant elle, elle est frappée d'une certaine cécité. Et puis peut-être le plus beau texte d'Eckhart, c'est la figure de Paul sur le chemin de Damas. Vous savez, Paul qui reste aveugle pendant 3 jours. Alors voilà, tous les textes de Maître Eckhart sont à lire, mais le sermon 66, il est particulièrement intéressant. Eckhart dit ceci, Paul ne voit rien, il voit le néant, il voit que Dieu est néant. Donc vous voyez en fait que cette cécité de l'intellect est en fait une manière plus haute de connaître pour lui. Une manière de connaître l'autre, Dieu ou la personne humaine, dans ce qu'il a de fondamentalement inaccessible. Dans son élan qui le porte vers la vérité, l'intellect se heurte à une difficulté, une étrange cécité de l'intellect. Cette expression n'est pas d'Eckhart, elle est de Bonaventure, j'y reviendrai. Alors, d'où vient cette cécité? Pourquoi l'homme est aveugle? En quoi consiste exactement cette expérience? Et quelles sont les conséquences pour la pensée? Au fond, il n'y a qu'une seule chose à retenir ce soir. C'est la question que je vais poser maintenant. Est-ce que, du coup, je ne sais pas comment la formuler, est-ce que la limite de la pensée est une limitation pour penser? Voilà. C'est la question que pose ce livre, au fond. Est-ce que lorsque l'intellect perçoit une difficulté, une limite dans la pensée, est-ce que c'est pour autant une limitation à penser? Ou bien alors, au contraire, est-ce qu'il n'y a de pensée que devant quelque chose d'inaccessible? Voilà, tout est dit. On pourrait s'arrêter là, mais comme j'ai encore 3/4 d'heure, je continue. Donc, de quoi parle ce livre? C'est le contenu de cette cécité de l'intellect, de cette opacité que nous avons à voir exactement ce que sont les choses. Les choses sont difficiles à connaître pour deux raisons. Alors, parmi les grands textes qu'il faut citer, il faut citer son commentaire de la Genèse, en particulier le paragraphe 41. Eckhart nous dit ceci, « La connaissance a toujours un rapport avec l'être. » Ou si vous préférez, « Connaître, c'est connaître ce qui est, ce qui a une certaine stabilité. » Or, certaines réalités manquent d'être. Par exemple, les choses matérielles. Elles ont une certaine inconsistance et insuffisance qui fait qu'on ne peut pas vraiment les connaître parce qu'elles ne sont pas assez consistantes. Ou bien à l'inverse, d'autres choses possèdent l'être, mais de manière excessive. Par exemple, Dieu. Et donc, de la même manière, on ne peut pas connaître Dieu parce que son être est suréminent et il dépasse la mesure de notre entendement. Je vous cite la phrase d'Eckhart dans le commentaire de la Genèse. Je le dis lentement. Il y a en effet deux causes qui font que les choses nous sont difficiles à connaître. Soit qu'elles passent la mesure de notre intellect de par l'éminence de leur être. Et là, c'est la question de Dieu. Et il ajoute ceci, ce qui fait que notre intellect se rapporte à elle comme l'œil de la chauve-souris au soleil. Il faut souligner cette métaphore de la chauve-souris. Soit, deuxième raison, qu'elle manque d'être ou d'étant, c'est le cas du monde qui nous entoure, c'est-à-dire ce qui fait l'objet de l'intellect. Ce qui m'intéresse bien, c'est la référence à la chauve-souris. Parce qu'en fait, cette référence, on la trouve chez Aristote dans son livre de la métaphysique, où il commence à nous dire que la plus belle chose pour la pensée, c'est la connaissance de la vérité. Et quelques lignes plus loin, il ajoute « L'investigation de la vérité est une chose difficile. » Non pas que cette difficulté, elle se trouve à l'extérieur de nous, mais elle se trouve en nous. Et il prend l'exemple de la chauve-souris qui est obligée de voler, qui serait obligée de voler sous la lumière du soleil et qui serait comme aveuglée. Donc voyez en fait la source d'Eckhart à propos de cette difficulté, il la trouve chez Aristote, qui est probablement l'auteur qu'il cite le plus après Augustin. Alors, je vous ai dit, je fais un raccourci énorme entre Aristote et la fin du Moyen-Âge, pour citer deux auteurs importants au Moyen-Âge que sont Bonaventure et Albert le Grand. Bonaventure, dans un livre qui s'appelle « L'itinéraire de l'esprit vers Dieu », c'est lui qui emploie ce terme d'étrange cécité de l'intellect. Il montre par là que notre regard, lorsqu'il s'est durablement fixé sur les choses extérieures se sont imprimées à l'intérieur de lui, et il ne peut plus regarder la lumière du soleil face à face, il est comme aveuglé. Mais progressivement, il arrive à s'accoutumer et finalement à percevoir un peu mieux la lumière. Donc il y a une progressivité possible et une possibilité de connaître toujours un peu mieux la vérité. On retrouve également cette idée chez Albert le Grand dans son commentaire de la métaphysique, où Albert le Grand dit que la connaissance procède étape par étape pour parvenir à la contemplation. Et nous savons qu'au Moyen-Âge, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a ce rapport à la vérité, il se déploie dans le temps. Tous les médiévaux considèrent que ce que nous ne pouvons pas parfaitement voir maintenant, nous le verrons plus tard parfaitement. C'est le thème de la vision béatifique. Ce qui est très original chez Eckhart, je ne sais pas si je suis clair, ce qui est très original, c'est que cette dimension eschatologique est complètement supprimée pour une immédiateté de l'expérience, et en même temps, cette opacité, elle est irréductible. Comment dire les choses? Chez tous les auteurs du Moyen-Âge, globalement, il y a une progressivité dans le temps, à savoir qu'on peut connaître Dieu et la vérité de mieux en mieux, et alors, à la fin des temps, ce sera extraordinaire, on pourra le voir face à face. Mais chez Eckhart, cette difficulté, elle est irréductible. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut jamais percevoir la vérité. Il dit même ceci, il y a une certaine plasticité de l'intellect, mais pas au point de pouvoir connaître la vérité. Donc, ce qui est très intéressant à noter chez lui, me semble-t-il, c'est que cette cécité, elle n'est pas provisoire, elle est irréductible. Par contre, que l'expérience qu'il fait de cette opacité, elle est immédiate et elle n'est pas dans un déroulé eschatologique. Voilà, brièvement expliqué d'où provenait cette cécité. Et alors, très intéressant également de voir dans le sermon 70, mais également dans le sermon dans le sermon 9, il dit ceci de très intéressant. Notre intelligence n'a aucune difficulté pour percevoir en nous la présence de la vérité. Par contre, ce que c'est, sa nature, nous ne pouvons pas le savoir. Pareil pour la question de Dieu. Notre intelligence est capable de savoir qu'il y a en nous une présence et que c'est Dieu. Par contre, la nature de Dieu, nous ne pouvons pas l'appréhender. Donc, c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'on ne peut pas douter de l'existence d'une chose. En revanche, sa nature essentielle, elle nous échappe toujours. Alors, ça, c'est cette expérience de l'inaccessible que je décris un peu dans l'ouvrage. Je pense qu'il y a deux conséquences intéressantes à retenir. C'est que cette difficulté à penser, chez lui, elle est interprétée d'une manière positive. La difficulté de connaître n'est pas une limitation à penser. Bien au contraire, elle introduit un dynamisme permanent pour la pensée. Je vous cite une phrase qu'il dit dans un sermon, le sermon 9. C'est précisément parce que cela est caché qu'on doit et qu'il faut le poursuivre. Autrement dit, cette prise de conscience d'un quelque chose d'inaccessible est précisément ce qui met en œuvre le dynamisme de la pensée. Au fond, le pire pour la pensée, et ça c'est, je le redirai vers la fin, je trouve que c'est très instructif pour nous aujourd'hui, depuis la modernité, le plus délicat pour la pensée, c'est qu'elle risque de s'approprier, de s'arrêter sur un objet et de s'approprier sur cet objet et au fond de se figer. Plus difficile pour la pensée, c'est de devenir une quête permanente d'un quelque chose qu'elle ne pourra jamais complètement s'approprier. Et il le dit, il le décrit d'une manière très précise dans le sermon 9 pour dire au fond, la grande tentative de notre intelligence, c'est de s'approprier les choses et d'en faire des objets qu'on peut entièrement déterminer. Oui. Dieu sait que quelquefois, quand on pense, et dans les différentes fonctions et métiers qu'on exerce, il faut bien qu'on puisse quand même maîtriser un peu les choses et les tenir entre les mains, si tant est qu'elles ne nous échappent pas des fois. Mais justement, pour Eckhart, ce qu'il montre bien, c'est que précisément la pensée n'est jamais aussi bien dans son fonctionnement que lorsqu'elle est en face d'un quelque chose qui est toujours inaccessible. Alors ça va développer chez lui toute une très belle thématique sur la quête, le désir, et là on retrouve une influence d'Augustin et le désir de Dieu. Incontestablement, Augustin, dans son livre sur la Trinité, a bien montré ce dynamisme important qu'il pouvait y avoir dans la recherche permanente de la vérité. C'est précisément le fait que la vérité est toujours inaccessible qui fait que l'esprit est capable de maintenir un désir. Pas si je m'exprime bien, mais plus difficile, il est plus difficile d'entretenir une quête incessante, un désir permanent. C'est plus commode et plus confortable, au fond, de s'arrêter quelquefois en disant ben, « ça y est, on a mis la réalité dans des tiroirs, c'est bien plus commode pour la rendre accessible ». Mais c'est peut-être pas comme ça que fonctionne la pensée intellectuelle. Et puis, deuxième conséquence qui est importante, c'est que cette cécité, fondamentalement, je crois, définit pour lui ce qu'est la connaissance intellectuelle. Alors, connaître, bien sûr, c'est construire des images et des représentations à partir du monde extérieur, dans un processus d'abstraction. Là, c'est un schéma aristotélicien qu'il reprend sans aucun problème. Mais Eckhart est surtout un grand auteur du détachement à l'égard des images et représentations. Et pour lui, connaître, c'est premièrement, peut-être consentir au fait que certaines choses nous échappent. Au fond, la rationalité, pour lui, est lié à une certaine forme d'humilité et d'ignorance. C'est cette prise de conscience d'un quelque chose qui nous échappe. Mieux encore, connaître, c'est précisément appréhender une chose dans ce qu'elle a de fondamentalement toujours inappropriable. Ça, ce point, il est important, pour Eckhart en tout cas. Par exemple, quand il parle de Dieu, c'est assez extraordinaire. Il dit, ben, on peut dire de Dieu qu'il est bon, qu'il est tout-puissant, qu'il est intelligent. Mais il dit, en fait, quand on prend ces représentations de Dieu, en fait, on parle plus de nous qu'on ne parle de Dieu. Il faut plutôt le saisir au-delà de ces représentations. Il dit ceci, tel qu'il est en lui-même, dans sa nudité. Il a même une expression qui est intéressante, il dit dans son vestiaire. Donc, dépossédé de tous ses attributs et de tous ses vêtements. Voilà comment il faut saisir Dieu par-delà les représentations. Intéressant, parce que ça, c'est pareil de la personne humaine d'ailleurs, le thème de l'intime. Il faut pouvoir percevoir l'être humain comme là où précisément il est quelque chose qu'on ne pourra jamais s'approprier. Parce que c'est très commode, au fond, la réalité quotidienne, et on fonctionne comme ça. On met les personnes dans des cases, on met la réalité dans des cases, dans des tiroirs, et c'est très commode pour fonctionner. Plus difficile, c'est de connaître l'autre précisément dans ce qu'il a toujours d'inappropriable. Et ça, c'est une quête qui est sans fin. Et peut-être, il a une belle expression dans le sermon 30, où il emploie le verbe « étreindre l'insaisissable ». Vous voyez, étreindre, c'est-à-dire... essayer de prendre de toutes parts un quelque chose qu'on ne peut jamais complètement contenir. Tourner tout autour d'une réalité pour essayer au mieux de l'appréhender, sachant qu'on ne fera jamais le tour de la réalité. Donc très belle image. Et j'ajoute que c'est peut-être parce qu'une chose ne sera jamais un objet pour ma pensée, c'est-à-dire quelque chose que je peux entièrement déterminer et maîtriser. C'est précisément parce qu'une chose ne sera jamais un objet pour ma pensée, qu'elle devient quelque chose d'essentiel à penser. Voilà. Quelle est sa thèse? Aussi bien la question de Dieu que la personne humaine. Alors voyez, évidemment, on est dans la rationalité médiévale, on fera un saut assez important avec un auteur comme Descartes et la modernité, où Dieu, précisément, devient un objet, en quelque sorte, de pensée. Alors, faut pas forcément caricaturer Descartes ou la modernité. Voilà. Mais en tout cas, l'expression Descartes, cette fois-ci, elle est très belle. Pour parler de Dieu, il dit dans un sermon, c'est quelque chose. Et il ajoute, je ne sais pas quoi, je ne sais vraiment pas quoi. Et donc il faut sans doute beaucoup de connaissances pour parvenir à cette connaissance de l'autre comme étant quelque chose. C'est-à-dire, j'aime bien cette en allemand etwas, quelque chose d'indéterminé, pour précisément parvenir à reconnaître cette part d'indétermination qui est en l'autre. Pourquoi s'appelle la nuit de la, pourquoi l'ouvrage s'appelle la nuit de l'âme? Parce que le thème de la nuit est au fond un très beau thème. Il évoque plusieurs choses. Il évoque incontestablement une épreuve pour la pensée. C'est une épreuve que de prendre conscience de tout ce qu'on ne connaît pas, et d'un quelque chose qu'on ne pourra jamais connaître. C'est une forme d'humilité qui peut paraître une épreuve, parce qu'il faut abandonner toutes les images et représentations qu'on se faisait de la réalité auparavant. Donc c'est forcément quelque chose de coûteux, et quand il décrit l'expérience de Paul qui vit le néant, il montre cette difficulté qui est inhérente à la créature, parce qu'elle est toujours éparpillée au dehors. Donc l'expérience de la nuit est incontestablement une épreuve pour la pensée. C'est éprouvant, mais on ne peut pas faire l'économie de cette nuit de l'esprit, parce que c'est elle qui révèle une manière plus haute de se diriger, une manière plus haute de penser. Alors chez lui, il y a un deuxième niveau, elle manifeste également une forme de révélation de la vérité. La vérité se manifeste à la pensée humaine, mais sous le mode de la dissimulation. La vérité se donne et se cache en même temps. Elle se manifeste et se voile. La vérité est toujours un petit peu ambiguë sous le mode de la dissimulation. Nous percevons qu'elle est là, mais nous n'arrivons jamais complètement à la découvrir. Il en est de même de Dieu, qui se manifeste à l'homme un peu sous la forme du murmure. C'est très beau. Il y a de très beaux textes sur cette question du murmure. Et puis, il prend aussi le très bel exemple de l'incarnation pour dire, en fait, Dieu est obligé de rentrer dans l'ombre humaine pour pouvoir se révéler à l'homme. Et c'est comme ça qu'il décrit l'incarnation. Et, en finale, la nuit désigne chez lui incontestablement un degré plus haut de connaissance. C'est le texte qu'on a lu tout à l'heure, hein, qui est sous le petit feuillet. Dans la nuit, quand aucune créature ne brille ni ne jette un regard dans l'âme, dans le silence où rien ne parle à l'âme, la parole est prononcée dans l'intellect. Au fond, tout est là. Hein. Pour lui connaître, tout est là. Au fond, connaître, c'est abandonner toutes les images et représentations pour redevenir ce vide immense dans lequel une parole peut résonner. Résonner, R-E. Et au fond, le fait de résonner, R-A-I, n'est qu'une manière de laisser résonner cette parole qui est à l'intérieur de l'homme. Mais vous voyez, il prend la métaphore de l'écho, c'est très intéressant, l'écho sur les montagnes d'une voix qui se projette sur les parois d'une montagne, de la même manière, quand l'âme devient ce grand silence, quand la pensée devient ce grand silence, elle est capable d'accueillir en elle cette parole qui se reproduit à l'intérieur de l'homme. Donc au fond, penser pour lui, c'est reproduire cette parole dont il faut toujours être à l'écoute. Voilà en gros le contenu du livre, résumé assez brièvement. Dans un deuxième temps, je voudrais évoquer un petit peu la méthode et le plan, le contenu de cet ouvrage que j'ai choisi. Parmi les auteurs du Moyen-Âge, Eckhart n'a pas écrit un traité systématique sur l'intellect, ni rédigé un commentaire du traité de l'âme d'Aristote. Et au fond, c'est bien rare parce que tous ses contemporains le font, que ce soit Thomas d'Aquin, que ce soit Dietrich de Freiberg ou d'autres auteurs, la plupart des auteurs commentent à cette époque-là soit un traité de l'intellect, soit le commentaire d'Aristote. Or, Eckhart ne fait pas ça. D'une certaine manière, c'est important parce qu'il refuse de traiter cette question de manière systématique. Par contre, cette question de l'intellect traverse tous ses écrits. Dans l'œuvre latine, qui est au fond une œuvre universitaire, il expose de manière très scolaire l'enseignement des maîtres. Et quand je dis très scolaire, ce n'est pas négatif. C'est ce qu'il faut faire à l'université. Transmettre l'enseignement des maîtres. Dans l'œuvre allemande, au contraire, son travail est beaucoup plus original, me semble-t-il, parce qu'il s'interroge sur le travail de l'intellect à partir de l'expérience. Au fond, sa question, c'est que fait l'intellect quand il accueille la parole, quand il accueille une parole? On peut dire que l'œuvre allemande, d'une certaine manière, elle observe plus la réalité même de l'acte de pensée. Voilà. Tous ces sermons allemands essayent de voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, au-dedans, quand la parole est donnée. Alors, sans renoncer au texte latin, je me suis effectivement plus intéressé à l'œuvre allemande, que je connais un peu mieux d'ailleurs, notamment parce que l'œuvre allemande est aussi beaucoup plus riche dans la description de la vie intérieure et de la vie intellectuelle. Il y a toute une créativité verbale en allemand qu'on ne retrouve pas nécessairement de la même manière dans l'œuvre latine, même si elle est également très intéressante. Alors, qu'est-ce qu'il fait dans l'œuvre allemande? Il commence par observer ce qui se passe dans l'âme humaine. Ensuite, il décrit rigoureusement les actes de l'intellect. Et enfin, il essaye de dégager les formes essentielles pour la vie de l'esprit. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas voulu faire un ouvrage systématique, au fond, ici, sur l'intellect chez Eckhart. Au fond, ça aurait fait un ouvrage de plus, mais il y en a déjà qui ont été écrits sur la question. J'ai plutôt fait un peu une enquête, où en fait j'ai fait la recension de chaque fois que le mot intellect apparaissait et quels étaient les verbes qui étaient associés au mot intellect. Donc j'ai fait une enquête un peu comme on fait son marché, et puis j'ai regardé les verbes qui apparaissaient le plus souvent associés à l'intellect. Quels sont ces verbes? Et du coup, qu'est-ce que c'est très concrètement que penser pour lui? Alors, les verbes sont nombreux. Ils sont souvent articulés entre eux, et c'est assez difficile, quelquefois, de vouloir exposer en lui-même un verbe, un acte de l'intellect, en le coupant des autres. Alors j'ai voulu consacrer un chapitre, enfin un verbe par chapitre. Alors d'une certaine manière, j'espère qu'il y a une cohérence dans le livre, d'ailleurs il y a trois parties, j'espère qu'il y a une progression, mais au fond, si vous vouliez tout simplement commencer par le chapitre 6 sur l'écoute, Je crois que c'est tout à fait possible. On peut prendre ce livre un peu, on peut aussi bien commencer par un chapitre qui est à la fin, même si quand même, je ne l'ai jamais fait, hein, mais comme j'ai une vision de la totalité de l'ouvrage, je ne sais pas si ça fonctionne, mais peut-être. En tout cas, j'ai vraiment voulu ce caractère fragmentaire et pas systématique. J'espère qu'il y a quand même une cohérence, que je vais vous montrer, mais j'ai vraiment voulu que ça soit quelque chose d'assez fragmentaire, donner des actes de l'intellect, comme ça, un peu les uns après les autres. J'espère quand même qu'il y a une ordonnance dans les trois parties de cet ouvrage. La première partie s'appelle « La traversée des apparences ». Trois verbes ici sont importants, le verbe « dépouiller »,« s'élever » et « unir ». Le travail de la pensée commence d'abord avec l'expérience sensible. Et l'intellect commence par dépouiller les choses de leur matérialité pour leur appliquer des formes intelligibles. Ça, on retrouve les auteurs de l'Antiquité et en particulier Aristote. Ce travail de dépouillement, donc premier verbe, permet ensuite à l'intellect de s'élever vers les principes des choses et même d'être élevé par Dieu, par la vérité, par la révélation, jusqu'à pouvoir s'unir aux principes. Et voilà les trois verbes constitutifs de la connaissance, dépouiller, élever et unir. Pas très original en réalité, parce qu'on retrouve une ligne dionysienne. Dans le pseudo-Denis l'Aréopagite, aussi bien la théologie mystique que les noms divins, on retrouve cette idée de commencer par se dépouiller, s'élever et ensuite s'unir aux principes. Donc on a effectivement ici une ligne qui est une ligne apophatique, on pourrait dire. Notez quand même qu'Eckhart privilégie le thème de l'union au grand thème de la vision, qui est un grand thème important au Moyen-Âge. Parce que dans la vision de Dieu, il y a encore une altérité. Et donc, il n'y a pas une assez grande proximité entre l'intellect et Dieu. Donc pour lui, plus important que la vision, c'est l'union et l'expérience intime que l'intellect peut faire de Dieu. Mais surtout, ce qui est très intéressant, et c'est pour ça que cette partie s'appelle la traversée des apparences, c'est que ce qui est très intéressant pour Eckhart, dans le mécanisme de la pensée, c'est pas simplement cette évolution commencer par se dépouiller, s'élever et s'unir, c'est l'idée d'un dépassement permanent, d'un mouvement permanent de la pensée. En latin, il dit ceci, « Oportet transire, il faut toujours passer ». Voilà peut-être un élément encore à retenir. Qu'est-ce que c'est que penser ? C'est toujours dépasser nos représentations. Plus important encore que le résultat de ce qu'on a découvert à travers une représentation, pour lui, le mouvement de la pensée est un dépassement permanent des images et représentations que l'intellect ne cesse de construire. Le propre de l'intellect, c'est de construire des images et des représentations, mais la vie fondamentale de l'esprit, c'est de toujours dépasser ces images et ces représentations. La deuxième partie de ce livre s'appelle « Étreindre l'insaisissable ». Trois verbes, cette fois-ci qui sont extrêmement liés, le verbe « saisir »,« s'émerveiller » et « chercher ». La pensée s'efforce de saisir la réalité, mais assez rapidement, elle prend conscience, comme je l'ai déjà dit, que la réalité est insaisissable. Donc, au fond, ce que l'intellect découvre, c'est l'insaisissabilité des choses. Et en même temps qu'il découvre combien les choses sont inaccessibles, il s'émerveille et cherche. Autrement dit, là, les trois verbes, c'est un peu comme les trois faces d'une même expérience. Au moment où on découvre l'inaccessibilité des choses, on est émerveillé devant leur étrange beauté et animé d'un désir permanent de chercher. Vous voyez ce que je veux dire? Ces trois verbes sont étroitement liés. Au moment où on découvre l'inaccessibilité de la vérité, l'intellect s'émerveille devant l'étrange beauté des choses qu'il ne parviendra jamais complètement à s'approprier et il est emmené dans une quête permanente du désir. Autrement dit, ces trois verbes sont liés. Il y a une phrase très belle d'Eckhart, où il dit ceci, « L'ignorance mène la pensée dans un émerveillement et produit en elle un désir de pourchasser. » Tout ça, c'est très lié. Au même moment où on découvre l'inaccessible, il y a un émerveillement devant l'étrange beauté des choses qui nous résistent et un désir permanent de toujours dépasser. Et enfin, dernière partie, autour de l'écriture de la Bible, s'il y a bien un lieu par excellence où se déploie l'intelligence de l'homme pour Eckhart, c'est l'écriture. L'écriture qu'il a toujours commentée lorsqu'il était enseignant, lorsqu'il avait des responsabilités au sein de son ordre, parce que, si vous voulez, l'écriture porte à la fois la trace d'un quelque chose qui se donne et se dérobe en même temps. L'écriture, pour lui, la Bible, c'est à la fois ce dont on ne pourra jamais complètement expliquer, il prend l'exemple d'une mer insondable, et en même temps, ce qui est l'horizon d'intelligibilité de toute chose. Voyez, pour lui, l'appréhension de l'écriture, l'étude intellectuelle de l'écriture, c'est vraiment le lieu privilégié de la rationalité. Parce que l'écriture, c'est le lieu d'intelligibilité de toute chose, et en même temps, c'est ce qu'on ne pourra jamais complètement s'approprier. Et là, il reprend également des phrases d'Augustin sur le fait que voilà, l'écriture se moque des gens sages et elle leur résiste toujours. Du coup, deux verbes sont étudiés ici, deux verbes qui sont un peu comme les deux pièces de monnaie d'une même réalité, les verbes écouter et prêcher. Ce qui se donne dans l'écoute est tellement riche que cela déborde dans la parole de l'homme et donne lieu à la prédication. Il appartient à l'ordre des prêcheurs. Et en même temps, la prédication n'est vraiment authentique que dans la mesure où elle s'enracine dans l'écoute. Alors, cette dernière partie manifeste bien comment Eckhart est vraiment un lecteur d'Augustin. Aristote et Augustin, voilà les deux auteurs qui sont un peu la source. Et effectivement, Eckhart combine parfaitement ces deux auteurs, Aristote et Augustin. Je m'arrête un petit peu, et puis après je termine ma dernière partie qui sera plus rapide, sur le chapitre sur l'écoute, qui est intéressant, j'espère. L'écoute, vous allez me dire spontanément, renvoie à la sensibilité. Au fond, l'écoute, c'est un des cinq sens qui nous permet de nous tourner vers le monde au dehors. Certes, mais du coup, l'écoute est également une attitude intérieure. C'est ce qui permet de disposer l'âme au-dedans. Et il le dit très bien, l'écoute me conduit à l'intérieur des choses, alors que la vue me conduit au dehors. Extraordinaire. Alors que dans toute la tradition philosophique et théologique, on accorde souvent beaucoup d'importance à la vue, dans la connaissance de la vérité. Eckhart insiste, lui, plutôt sur cette autre fonction qui est l'écoute et l'ouïe. On peut voir une source chez Bernard de Clairvaux, dans le Cantique des Cantiques, où Bernard de Clairvaux dit que dans l'absolu, la vue est sans aucun doute le moyen de connaissance le plus parfait. Mais, rappelez-vous l'épisode de la désobéissance, comme l'homme est devenu aveugle en écoutant les propos du serpent, c'est en écoutant aujourd'hui la parole de Dieu qu'il va retrouver parfaitement la vue et la connaissance de la vérité. Eh bien, Eckhart reprend exactement cette même position. Certes, dans l'absolu, la vision serait le sens le plus parfait dans la connaissance de Dieu, mais dans la condition qui est la nôtre, c'est l'écoute, et en particulier l'écoute de la parole de Dieu, qui va reconformer de l'intérieur l'intellect et sa capacité de connaître la vérité. Donc l'écoute occupe une place très importante chez lui. Et puis le thème de l'écho, que j'ai déjà évoqué, le fait de laisser résonner la parole. Je termine par mon dernier propos, donc j'espère avoir un peu parlé du contenu, avoir un peu montré également la méthode et le plan, la composition de l'ouvrage. Reste à espérer que cet ouvrage apporte un petit intérêt, au moins pour la connaissance des cartes. Au fond, je crois que ce livre se pose depuis le début une seule et même question pour moi, qui est la question « qu'est-ce que c'est que penser ?» Évidemment, c'est un problème à la fois simple et compliqué. « qu'est-ce que c'est que penser. C'est une question pour nous philosophes qui est tout de même importante, mais peut-être d'une manière générale, et bien sûrement d'ailleurs d'une manière générale, pour l'homme en général, pour l'humanité, la pensée est quelque chose de constitutif. On pourrait dire avec humour, dans quelle mesure la pensée est-elle encore le propre de l'homme aujourd'hui? Bon, j'évoque rapidement quelques lieux, sans faire de caricature, ça mériterait d'ailleurs... si vous voulez, quand on écrit sur un auteur comme Maître Eckhart sur le Moyen-Âge, on reste tout de même quelqu'un qui vit dans une société, dans un monde où se posent des débats, des questions, et on n'est pas complètement hermétique à ces débats-là. Simplement, je ne suis pas compétent pour y répondre, la seule compétence que j'ai, c'est un peu dans ce domaine-là. Donc, si vous voulez, je vais vers ce livre-là, mais il n'est pas pour moi sans impact sur le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. J'évoque trois lieux qui m'intéressent, mais sur lesquels je n'ai pas spécialement de compétences. On sait aujourd'hui combien les sciences peuvent imposer un modèle de pensée. Je veux dire ça sans caricature. Je pense que d'ailleurs, un scientifique rigoureusement ne serait pas d'accord. Il dirait qu'il y a aussi beaucoup de poésie et de littérature d'un certain niveau dans la science. Voilà. Mais je veux dire quand même que dans l'image que nous nous faisons du modèle scientifique, il a durablement imprimé sur nos manières de penser des caractéristiques importantes. Par exemple, sur le fait que penser, c'est déterminer, calculer, réduire au minimum tout écart possible, toute incertitude possible. Vous voyez ? Comme j'ai également des étudiants qui sont en psychologie, je n'ignore pas aussi le développement des neurosciences aujourd'hui, de cette idée au fond que le cerveau ne serait peut-être qu'une machine très subtile, une matière à penser. C'est le titre d'un ouvrage qui a été écrit par un neuroscientifique. C'est une question qui est très intéressante et en débat aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que penser? Est-ce qu'il y a encore quelque chose de propre à l'homme dans la pensée? Ou au fond, est-ce que le cerveau n'est qu'un super ordinateur avec des connexions qui se font très bien? Et puis, depuis très peu, au fond, il y a une nouvelle chose qui arrive sur le débat, qui est celle de l'intelligence artificielle, une certaine fascination. Donc, si vous voulez, les neurosciences montrent que les hommes... au fond, sont des machines améliorées, et maintenant, l'intelligence artificielle montrerait que des machines peuvent penser. D'où ma question, qui est peut-être pas si bête non plus que ça, dans quelle mesure la pensée est-elle encore le propre de l'homme? Car il y a des personnes qui défendent le fait que les animaux pensent. Alors, c'est là que nous, philosophes, on dit, il y a une communication entre les animaux, mais peut-être pas une pensée. De même qu'on pourra montrer que, un ordinateur peut peut-être donner des choses qui font penser à de la pensée, mais qu'est-ce que c'est que la pensée humaine? C'est intéressant de voir comment le développement de la société aujourd'hui nous amène une fois de plus à réfléchir à ce que c'est que penser humainement. Ne croyez pas que je veux caricaturer la période dans laquelle nous vivons, ce n'est pas du tout le cas. Ne pensez pas non plus que je vais chercher dans le Moyen-Âge des recettes comme si ça allait marcher pour notre époque d'aujourd'hui. Pas du tout, absolument pas. Simplement, je trouve que le Moyen-Âge nous donne d'autres modèles, d'autres perspectives qui peuvent être intéressantes. En particulier, cette idée que penser, c'est envisager une chose dans ce qu'est là de toujours inaccessible. Comme le temps presse, je vais aller plus rapidement. Je trouve que cet ouvrage m'a intéressé par rapport à l'étude Descartes. Ce que j'ai beaucoup montré chez Eckhart, en traduisant l'œuvre allemande, c'est la dimension bien spécifique de son œuvre allemande. Alors, on n'est pas tous d'accord là-dessus. Il y a des... Même entre nous, plus les domaines sont petits, plus on est en désaccord. Je pense que l'œuvre allemande est singulière. Dans l'œuvre latine, Eckhart délivre un enseignement. Dans l'œuvre allemande, il montre pourquoi un tel enseignement est impossible. Autrement dit, ce qui l'intéresse... c'est de montrer comment la pensée affronte quelque chose d'impossible. Et c'est, à mon avis, ce qui donne naissance à la littérature. Enfin, je devrais nuancer mes propos, mais au fond, qu'est-ce que c'est que la littérature? Et pourquoi écrire? On n'écrit pas pour décrire. On écrit au moment où on a compris qu'il y a quelque chose qui est fondamentalement indicible. Je crois que c'est ça, en partie, qui permet de définir la littérature. Eh bien, d'une certaine manière, vous voyez, Eckhart est un auteur intéressant à la frontière entre une écriture latine universitaire et scolaire et une œuvre très littéraire allemande qui ouvre d'autres perspectives. Et on comprend effectivement pourquoi il a beaucoup inquiété les gens de son époque. Parce que quand on donne un enseignement positif sur les grands maîtres à penser, ça pose aucune difficulté. Quand on commence à délivrer un enseignement disant que tout enseignement, au fond, sur la question de Dieu est impossible, il faut pouvoir l'entendre. C'est intéressant, mais c'est compliqué. Du coup, ce qui m'intéresse beaucoup de montrer, c'est qu'il y a une dimension littéraire chez Eckhart. Voilà. Et je ne vous cache pas qu'au moment où ce livre sort, il y en a un deuxième qui est sorti à Lyon, mais un collectif avec deux collègues, aux éditions Jérôme Millon, alors lui ça fait 15 jours qu'il est sorti, qui s'appelle « Maître Eckhart, une écriture inachevée » et qui montre bien la dimension littéraire de l'œuvre d'Eckhart. Ça m'intéresse bien parce que du coup, je trouve que ça ouvre la pensée à d'autres horizons, la littérature, l'écriture, et peut-être l'art en général, pour montrer au fond qu'il y a aussi dans la littérature, aussi dans la poésie, une pensée, et qu'elle est importante et qu'elle est intéressante. Je pourrais vous signaler, je peux citer beaucoup de textes intéressants, il y en a un qui me vient en tête, un texte sur Giacometti, qui s'appelle, Giacometti donc le sculpteur, ouais, qui s'appelle « La catastrophe de novembre 1956 ». Où Giacometti explique comment il est devenu conscient de ce qu'il devait faire au moment où il a compris qu'il y avait quelque chose d'impossible à représenter. Au fond, il dit « J'ai toujours été très habile dans la sculpture. » Et puis à un moment donné, devant le modèle que j'avais en face de moi, j'ai compris que ce que je devais sculpter, c'est ce qui se dérobe précisément dans la figure qui est en face de moi. Et il appelle ça une crise qu'il a laissée comme Paul sur le chemin de Damas, carrément incapable de créer pendant plusieurs mois, parce qu'il avait compris que l'art n'était pas une question de technicité uniquement, mais qu'il devait révéler quelque chose d'invisible. C'est peut-être toute la vocation de la littérature, de l'art, et je termine juste par un poète, parce qu'il est drômois, qui est Philippe Jacotet, qui dans son œuvre magnifique, son œuvre poétique magnifique, est bien également dans cette veine-là. Au fond, toute la poésie de Jacotet tourne autour de ce qui ne peut pas être dit et de ce qui est impensable. Et c'est peut-être là une des sources lointaines pour le titre que j'ai choisi. Alors je termine par le petit passage qui est en exergue au début du livre. C'est un extrait de Philippe Jacotet. Je le lis et j'ai fini. « Il y a une nuit dont on ne peut parler, mais dans laquelle il faut entrer pour s'apercevoir qu'elle est sans fond, qu'elle est sans fin. » Merci.
Eh bien, très grand merci, Eric, pour cet exposé qui, je pense, nous donne une excellente idée du livre, en nous présentant à la fois son contenu, sa méthode et ses enjeux, cette définition de l'acte de pensée, avec la confrontation de la pensée à ce qui la dépasse de façon essentielle. Enfin. Et c'est évident que la pensée ne se réduit pas à ce qu'une machine peut faire. Enfin, en tout cas, je pense à la pensée humaine. Mais donc maintenant, je pense que l'intérêt, c'est de dialoguer avec la salle. Et donc, peut-être peut-on prendre d'ailleurs plusieurs questions à la fois, parce que comme ça permettra éventuellement...
D'ajuster mes neurones.
Bah d'organiser ta réponse comme tu le souhaites. Je dis c'est une hypothèse, mais bon. Oui, Alain ?
Plotin et Proclus. Il est clair qu'il y a, on va dire, deux, si je vais vite, hein, il y a deux grandes veines au Moyen-Âge, la veine augustinienne, de la forme. Au fond, la connaissance, c'est de percevoir la forme qui est en Dieu. Et voilà. Et puis, il y a celle de Proclus, Plotin, de tout le courant apophatique, où au fond, ce que dit Proclus, Dieu est lui-même tellement sans forme qu'il ne peut même pas lui-même se connaître. Alors, effectivement, Eckhart connaît bien cette veine-là par les commentaires du pseudo-Denis l'Aréopagite, au fond, qui est l'auteur chrétien qui a le plus de rapports avec Proclus, Plotin. Donc il les connaît effectivement par les commentaires de Jean Scotérigène. Donc incontestablement, cette veine, elle est présente chez Eckhart. Mais il la relie également, et je rejoins du coup la deuxième question, à Aristote. Il y a de très beaux textes d'Aristote qui disent « La connaissance de la vérité, qui est parfaite et pleine en Dieu, je crois dit Aristote, nous ne la connaissons qu'à certains moments et de manière éphémère. » Et bien c'est le cas de l'union. Donc Aristote est aussi un auteur important pour Eckhart, et ça répond à votre question. L'originalité de Descartes, c'est effectivement la question de l'immédiateté de l'expérience de la vérité possible. Alors que tout le Moyen-Âge pense plutôt à la question de l'eschatologie, hein, où cette union elle est progressive et de plus en plus, et à la fin des temps, voilà. Lui, c'est ici et maintenant que chaque personne peut faire l'expérience de Dieu, de la vérité, du principe, voilà. Mais Mais en même temps, il ne veut pas non plus éviter cette idée, c'est que nous pouvons donc connaître une union, ici et maintenant, mais elle est éphémère et ne dure jamais. Il y a une espèce de beauté de l'instant. Ça mériterait également, peut-être un jour un autre ouvrage, mais dans très longtemps cette fois-ci, sur la temporalité chez lui. Il accorde beaucoup d'importance à l'instant, au moment, au temps présent. C'est-à-dire que l'instant est capable de contenir l'éternité, ou plutôt, pour dire mieux, ce qui en Dieu est de toute éternité, pour nous, pour l'homme, l'éternité, elle ne dure qu'un instant. Voilà. Donc oui, il y a une union possible dès maintenant, au principe, mais c'est éphémère, c'est fulgurant. Le terme d'ignorance. Il emploie le terme d'ignorance, il emploie également le terme de connaissance inconnaissante. Voilà. Donc, oui, il emploie le terme d'ignorance, et effectivement, ça fait penser à l'ignorance socratique, mais pour lui, alors que l'ignorance socratique, au fond, c'est que je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien, et c'est ce qui va faire naître un désir de connaître, chez lui, et l'ignorance est quand même un petit peu synonyme de cette plus haute forme de connaissance qui est la connaissance des choses dans leur inconnaissance. Vous voyez ? Donc oui, le vocabulaire socratique est employé, mais il n'y met pas forcément la même chose dedans. Pour lui, c'est le très beau thème du néant que j'ai évoqué à propos de saint Paul, quand il vit le néant, c'est-à-dire au fond, il voit un mode de révélation transcendant de ce qui est toujours inappropriable et à dépasser. Oui, bien sûr. Sur cette question de néant, bien sûr, alors pas Kierkegaard, mais les auteurs allemands, comme Heidegger, ont lu Eckhart. Hein. Donc, il y a beaucoup de traductions d'Eckhart qui font des choix que je trouve toujours justifiés. Personnellement, j'aime bien le terme de néant parce qu'en fait, il colle bien avec les mots allemands. Nicht, c'est la négation. Et das Nicht, c'est pour moi le néant. Voilà. Je préfère traduire comme ça parce que c'est plus cohérent au niveau de la... vous savez, les textes d'Eckhart allemands sont très bien écrits. Il y a une espèce de prose rimée à l'intérieur qui sonne très bien et qui est très difficile à rendre en français. Donc justement, je trouve qu'on la rend mieux comme ça par le terme de néant. Le terme le néant traduit mieux ce que Eckhart appelle das Nicht, à mon avis. Cela dit, les gens qui ont traduit par rien ont voulu peut-être donner une traduction qui était plus audible à un public, et donc c'est justifié aussi. Mais je trouve que, voilà, das Nicht, ça se traduit mieux par le néant que le rien. Voilà. Et en plus, c'est, pour une fois, on a le mot français qui sonne un peu comme le mot allemand. Voilà. Mais... Oui, mais Eckhart emploie ce substantif das Nicht. Voilà. Si vous voulez, pour lui, le néant, ça veut dire deux choses, c'est très clair. Quand il parle du néant de la créature, il montre l'insuffisance que la créature a par elle-même de se connaître. Quand il parle du néant de Dieu, il substantifie le terme, hein, incontestablement. Il passe de la négation Nicht au substantif das Nicht. Donc le néant de la créature, c'est le fait que la créature n'est rien sans la connaissance de Dieu. Et le néant de Dieu, c'est le fait que l'être de Dieu est d'une essence suressentielle par rapport à tout ce qu'on peut connaître. Donc si vous voulez, autant le néant de la créature est une négativité, autant le néant de Dieu est une expression de sa transcendance. Et Eckhart a substantifié le mot das nicht. Donc je préfère traduire par le néant que le rien. Voilà. Mais bon, l'autre cas se justifie aussi. Je ne veux pas dire de bêtises. Votre question est vaste, hein, parce que c'est tout le procès Descartes qu'il faudrait refaire là. Comment vous répondre? D'abord, les phrases qui ont été condamnées, si on les sort de leur contexte, effectivement, elles sont très curieuses. Par exemple, parmi les phrases condamnées, il y a le fait que la créature est un néant. Bon, c'est sûr que pris en soi, effectivement, ça va dans le sens de ce que vous dites, c'est curieux à entendre. Et effectivement, les phrases Descartes ont une certaine radicalité qui est difficile à entendre. Sauf que sorties de leur contexte, elles ont cette radicalité. Remises dans leur contexte, elles sont relativement classiques et on retrouve les sources très classiques, y compris d'un Thomas d'Aquin qui commente le pseudo de Nil Aréopagite, en réalité. Voilà. Ensuite, la deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que même si je montre l'intérêt des cartes, je ne cache pas son côté, je l'ai dit, très traditionnel d'ailleurs. Hein. Le schème privilégié chez lui, c'est le schème de l'incarnation, par exemple. Donc vous pensez bien qu'on n'aurait pas confié à la fin de sa vie la responsabilité des études générales des dominicains à Cologne à quelqu'un qui sentirait le soufre et qui remettrait en cause la question de la Trinité. D'ailleurs, ces sermons, la plupart de ces sermons allemands et latins, sont tous des sermons sur la Trinité. Donc il n'y a aucun souci de ce point de vue-là au niveau de l'orthodoxie de sa pensée. Simplement, c'est vrai que ce qu'il a aussi montré, c'est la nécessité qu'il faut toujours déconstruire les images et représentations que nous nous faisons. Voilà. Et c'est vrai aussi, et je l'assume, hein, c'est vrai aussi que ça peut avoir quelque chose de très, à la fois tonique pour la pensée, et très dérangeant par rapport à une pensée qui voudrait constituer des dogmes. Donc pour vous répondre simplement, sa pensée ne remet pas en cause les dogmes fondamentaux, mais relativise considérablement le dogmatisme dans la pensée. D'accord ? Et c'est ce qui en fait sans doute son intérêt pour aujourd'hui. Donc il ne remet pas en cause les dogmes fondamentaux. Par contre, oui, c'est sûr qu'il critique le dogmatisme dans la pensée. Et oui, c'est sûr que son enseignement allemand, c'est précisément un enseignement pour toujours dépasser. Ne vous faites pas d'illusion quand même que la prédication en langue vernaculaire au Moyen-Âge, c'est une prédication hyper moralisante. Hein. Voilà ce qui est bien, voilà ce qui est mal, voilà où il faut aller. L'originalité de sa pensée, et ce qui fait qu'aujourd'hui on lit Maître Eckhart très franchement, alors qu'on ne trouve pas de la même manière, on ne lit pas Thomas d'Aquin, Albert le Grand inconnu, enfin voilà. On le lit parce qu'il y a chez lui quelque chose de très tonique, incontestablement. Et une interrogation sur le dogmatisme dans la pensée. Alors ça, oui, il est plutôt contre. Incontestablement. C'est-à-dire cette idée de se figer et de s'arrêter une fois pour toutes. En se disant, ben ça y est, j'ai trouvé la vérité, elle est là, elle est comme ça, elle n'est pas autrement. Donc, il y a quand même quelque chose, si vous voulez, je défends un maître Eckhart classique, mais en même temps, c'est vrai, et je comprends les censeurs, qu'il y a quelque chose qui est très déconsistant. De même que Socrate a été condamné parce qu'en fait, il questionnait les valeurs de la société athénienne, de même, Eckhart, en quelque sorte, nous dit qu'il faut toujours dépasser toute forme d'enseignement, d'image et de représentation. Ça peut être difficile à entendre, surtout quand il commence à le faire devant un public large, voilà. Surtout quand il commence à le faire en allemand et qu'il le met par écrit. Avec les béguinages de Strasbourg, qui n'étaient pas non plus sans difficulté, hein, voilà. Est-ce que répondu à votre question, je crois. C'est-à-dire, en fait, il essaye de fait, là où ses propos sont les plus radicaux. Donc, dans son enseignement scolaire latin, on a un auteur très classique sur l'action de la Trinité, de l'incarnation, du Verbe qui est l'image du Père, voilà. Dans son œuvre allemande, il essaye de prendre un point de vue plus radical, qui est de se situer à partir de l'expérience que l'homme fait de Dieu lui-même. Voilà, donc effectivement, il essaie de construire un discours théologique à partir de l'expérience que l'intellect fait de la vérité. Voilà. Donc c'est effectivement un autre point de vue, comme vous l'avez très bien dit. Sur la question de cette idée qu'il faut dépasser la Trinité, en fait, non, il n'y a pas de... La déité serait pas un point de vue plus haut que la Trinité. Par exemple, sa christologie est très intéressante, et personne ne s'est vraiment attaqué à cette question-là. Il montre très bien, il dit par exemple, qui est Jésus ? Et il ajoute, il n'a pas de nom. Et en fait, il montre que le Christ est l'image parfaite du Père invisible, dans la mesure où il se dérobe à toutes les images et représentations. Donc il y a vraiment toute une christologie très subtile chez lui, et au fond, cette idée d'un dépassement, il est toujours au nom d'un mouvement de l'esprit qui doit toujours dépasser les représentations qu'on se ferait, mais certainement pas celle de la Trinité. Il y a toujours une manière plus ultime de reprendre ces dogmes, à partir de l'expérience. Ah oui, question difficile, parce qu'en fait, il ne lisait pas le grec et il ne le cite pas. Bon, mais c'est pas une raison. En revanche, c'est curieux, hein, les auteurs qu'il cite et ceux qu'il ne cite jamais. Par exemple, je vous ai dit qu'il avait à Strasbourg rencontré les Béguines. Voilà, donc il y a toute une littérature des Béguines, en particulier Hedwige d'Anvers, qui a écrit des lettres spirituelles, et Hedwige d'Anvers, précisément, mais on ne sait pas comment, elle cite cette idée que, un peu, vous savez, de l'épectase chez Grégoire de Nice, elle le cite, on ne sait pas comment, dans les communautés religieuses, en fait, les textes ont véhiculé. N'empêche que Eckhart, quand il constitue sa langue allemande, il reprend le terme de fond à Hedwige d'Anvers, donc il est clair qu'il a accès à cette littérature des Béguines, et par le biais de ces communautés qui sont en lien entre elles, ils ont accès à ces textes-là et à des traductions, sans doute, des pères grecs. Simplement, ils ne citent pas Grégoire de Nice, de même qu'ils ne citent pas non plus, d'ailleurs, les Béguines, comme Marguerite Porrette, hein, autre débat, alors qu'ils citent ses propos. Donc il y a à la fois, il y a une manière d'écrire particulière au Moyen-Âge. On cite des autorités, Aristote, Augustin, Thomas, et en même temps, on ne cite pas des choses qui appartiennent à la littérature, on va dire, monastique ou béguinale. Donc, il ne le cite pas, mais de fait, par Hedwige d'Anvers qu'il connaît, oui, c'est possible que ça soit structurant. Après, l'autre manière de répondre à votre question, c'est de dire qu'en fait, tous ces auteurs puisent à la même source qu'est l'écriture. Et donc, il a lu, comme Grégoire de Nice, le même texte de Paul. Pour Dieu. Non, c'est écarté. Alors, il faut lire exactement ce sermon-là et tout ce qu'il dit. Vous voyez, c'est toujours le risque de prendre. Il y a des propos tellement, des formules tellement excessives chez Eckhart que si on sort une phrase de la totalité d'un sermon, en fait, il dit exactement que. Il y a un truc assez juste. Hein, il dit que la véritable pauvreté, c'est de ne rien avoir, de ne rien savoir, j'en oublie un, et de ne rien vouloir. Et là, en l'occurrence, il cite Marguerite Porrette, le miroir des simples âmes anéanties qui a été condamné et brûlé en place de grève. Elle le dit dans son texte, donc en fait, c'est un calque qui reprend. La véritable pauvreté, c'est de ne rien avoir, de ne rien savoir et de ne rien vouloir. Voilà. Mais au fond, cette triple déprise, y compris à l'égard de Dieu, il faut aller à la fin du texte. La fin du texte, c'est l'union à Dieu. Donc en réalité, cette triple déprise, elle est au service d'une meilleure connaissance de la vérité telle qu'elle est en elle-même, indépendamment des schèmes et des représentations qu'on peut se faire et de Dieu et de la vérité. Donc la fin du sermon se termine par la percée de l'âme en Dieu. Donc on ne peut pas dire que c'est mettre la pauvreté au-delà de ce qui est pour lui l'essentiel, qui est l'expérience unitive de la vérité. Vous voyez ? Eh bien, c'est une excellente question sur l'interculturalité, on va dire. Ça m'a beaucoup intéressé, mais comme je ne connais pas les langues orientales, je ne m'y risquerai pas. Moi, je regarde que les langues que je connais. Quand vous lisez des textes du Tao, voilà, par exemple, il est étonnant de voir comment des grands maîtres... Alors, il y a beaucoup de thèses qui sont faites sur l'école de Kyoto, sur écarter le bouddhisme, sur... Il y a beaucoup de choses très bien qui ont déjà été faites. Moi, je ne le fais pas. Quand on lit certains auteurs comme Lao Tzu, par exemple, il est assez étonnant de voir sur l'action du détachement, l'accès à la vérité, la désappropriation, de voir les similitudes. Ça, c'est extraordinaire pour des cultures qui ne se fréquentent pas. Parce que quand même, Eckhart, c'est un dominicain, quoi, vraiment extrêmement classique, dans des dogmes extrêmement classiques, dans des cultures qui ne se connaissent pas. Alors, ça, je trouve ça très intéressant, votre question, parce que comment peut-on arriver à de tels parallèles? Eh bien, je crois, en fait, que ce qui est intéressant, c'est que ces deux auteurs, Eckhart comme Lao Tzu, ont été jusqu'au bout de la réflexion, ont approfondi jusqu'au bout chacun leur tradition, en la dépouillant de ce que j'appelle, moi, les scories, pour parvenir à l'essentiel. Et parvenant à l'essentiel, quelquefois, effectivement, on touche quelque chose de l'homme et de l'universel. Donc, vous voyez, aujourd'hui, moi, je suis tout à fait intéressé par le dialogue des cultures, de rassembler des gens de différentes cultures pour les faire dialoguer, mais il se trouve qu'il y a une autre manière de faire, qui est d'approfondir la propre tradition qui est la nôtre. Le pire est de ne pas avoir, au fond, de tradition culturelle, pour ne pas pouvoir dialoguer. Mais au fond, pourquoi Eckhart est un auteur intéressant dans le dialogue? Pas parce qu'il connaissait Lao Tzu, parce qu'il a approfondi jusqu'au bout sa tradition, et au fond, la question de l'incarnation du verbe chez lui. Et à un moment donné, il a dépouillé le langage de tout ce qui pouvait être un petit peu accidentel et accessoire pour parvenir à un moment donné une profondeur dans le langage où effectivement toute fin. C'est vrai ce que je dis? Enfin, moi, j'ai que cette solution-là, en tout cas, de voir que, enfin, ce travail de la négativité, il est aussi un travail qui permet de dépoussiérer ce qui, dans notre culture, est essentiel de ce qui est accessoire. Et à un moment donné, on touche quelque chose de l'universel de l'homme, indépendamment des cultures et des traditions. Parce que les auteurs ne se connaissaient pas. Donc le travail sur le langage, la déconstruction des représentations, ça c'est très précieux aussi.
Non, vous vouliez poser une question? Oui, madame.
D'une chose on ne peut pas parler, ils en parlent beaucoup. Donc il y a à la fois, il dit que toute parole est impossible, est inexprimable, et en même temps il y a une créativité chez lui qui est assez abondante, parce que la langue allemande s'y prête bien, déjà. C'est un peu comme un train, on rajoute des wagons, on peut rajouter des préfixes, à partir d'un verbe, on peut faire un substantif, donc la langue allemande se prête bien à cette créativité. Et alors c'est vrai que lui, il a beaucoup, autour des verbes allemands, formé des... comment dire... Si je prends par exemple le verbe brechen, qui veut dire traverser, on peut dire inbrechen, traverser dedans, ausbrechen, traverser au-delà, vous voyez, ce sont le préfixe qu'on met, et donc là, il s'amuse avec ça, il fait toute une terminologie allemande, à un moment donné, il essaye d'exprimer ce qui se passe dans l'âme quand la lumière de la grâce vient l'illuminer. Et alors, il y a une cascade de verbes les uns après les autres. Donc, de fait, il a forgé toute une terminologie allemande à partir des verbes, en y rajoutant des préfixes, en bas, en haut, au-delà, à travers, au-dessus, voilà. Bon, des substantifs, donc il y a toute cette créativité verbale. Il y a aussi le terme, le fond de l'âme, Grund, qu'il emprunte à Advige d'Anvers. Alors là, également, donc il y a également l'invention de termes qui n'existaient pas dans le latin savant qu'il va apporter. Donc oui, il y a une grande créativité verbale et en plus quelque chose de très littéraire dans son œuvre, dans sa manière d'écrire, qu'on ne perçoit pas dans la traduction, parce qu'il faudrait... En fait, ses sermons étaient écrits avec, on appelle ça de la prose rimée, c'est-à-dire qu'au fond, les phrases riment comme de la poésie. Et c'est très beau parce qu'en plus, il y a un rythme ternaire, c'est pas un hasard. Et c'est pour vous dire qu'il n'a jamais abandonné les dogmes trinitaires. Il y a même un rythme ternaire dans la phrase. Il reprend les choses toujours de trois manières, comme une espèce de souffle. Et puis il reprend les termes, il en reprend plus. Et en fin de compte, il y a une espèce c'est presque une espèce de plénitude, d'accomplissement à la fin du sermon. C'est... Bon, ça serait, il faudrait travailler les textes allemands là-dessus, vous le verriez très bien. Le rythme est toujours ternaire et il rajoute toujours des mots, ce qui fait qu'il y a une espèce d'amplitude qui est faite et que d'une certaine manière, je ne sais pas si je réponds bien à votre question, on a l'impression chez lui que la créativité littéraire participe et accomplit la création qui a été faite, continue et poursuit la création, l'acte de la création, incontestablement, avec une amplitude et un accroissement. Et bien voilà, il pense incontestablement que la créativité littérale est une manière de continuer la création. En français ou en allemand ? C'est dur votre question. Il y a des textes qui sont intéressants par leur vocabulaire. Le sermon 66 sur le néant, Paul, très joli. Les jeux de mots qu'il fait sur le terme de néant. Il y a le sermon 110 où il y a des constructions de phrases très intéressantes également. Donc des fois ce sont les termes terminologiques, des fois ce sont les cerfs. C'est difficile à répondre. Tous les textes ont une certaine créativité. Dans l'introduction que j'ai fait aux écrits allemands des cartes, aux éditions du Seuil, je prends à la fin quelques exemples de sermons qui sont bien faits sur le plan littéraire. Dans ce livre également, il y a quelques exemples comme le sermon 110, par exemple, qui sont particulièrement bien composés. Piège. Parce qu'il y a, je crois qu'il y a ici même des traducteurs avant moi qui étaient hegeliens, je crois, de Maître Eckhart.
Donc, mais c'est pas un piège de partir de
ça. Je ne suis pas assez spécialiste de Hegel pour vous répondre, mais je dois quand même vous répondre. Je crois, je ne le ferai pas rentrer dans cette catégorie-là, parce que dans l'idée de dialectique, il y a l'idée d'une finalité. Or, je retiens des cartes ce verbe, il faut toujours passer au-delà. C'est la phrase du Christ, hein, il faut aller sur l'autre rive. Au fond, chez lui, je ne pense pas qu'il y ait une pensée dialectique en ce sens qu'il n'y a pas une finalité qui est déterminée. Pour lui, le mouvement de la pensée, et ça résume un peu le livre, c'est de toujours aller au-delà. Ce qui compte, c'est de toujours aller au-delà. Donc c'est le mouvement qui compte, mais sans avoir une finalité. Donc, personnellement, je ne ferai pas rentrer Eckhart du côté de la dialectique. Mais je comprends pourquoi les philosophes de la dialectique se sont intéressés à Eckhart. Vous voyez ? Seul compte l'effort de l'esprit à toujours dépasser. Voilà. De ce point de vue-là, Nietzsche, par contre, voyez, serait plus, quand il dit que l'homme est un pont, qu'il n'y a pas de finalité, Nietzsche serait plus proche de Eckhart que Hegel. Mais bon.
Il y avait une autre question, oui, monsieur.
Oui. Oui, alors, elle se conjugue, et elle se conjugue bien, parce que, justement, si la vérité est inaccessible, nécessairement, elle entretient un désir de connaître. Et donc, le thème du désir est très présent chez Eckhart, qu'il reprend à Augustin. Et le thème de l'amour. Au fond, il faut également un amour de la vérité. Donc, si vous voulez, dans sa manière de concevoir la connaissance intellectuelle, qui est la connaissance d'un inaccessible, il faut nécessairement aimer la vérité. Ouais. C'est le désir. Il dit très dans un texte, par exemple, où il commente l'épisode de Zachée. Vous savez, cet homme qui cherchait à voir Dieu, le verbe chercher chez Eckhart, il montre que ce qui est trop petit en l'homme, c'est son désir. Il faut augmenter son désir de connaître, et donc l'amour de la vérité. Il ne suffit pas de voir la vérité, en l'occurrence, on ne peut jamais la voir. En revanche, il faut entretenir en permanence l'amour de la vérité. Et ça, c'est intéressant aussi, je trouve. cette manière de conjuguer connaissance et amour. En tout cas, elle est conjuguée chez lui. C'est-à-dire que bien qu'il soit un auteur dominicain, comme je l'ai dit, qui accorde de l'importance à l'intellect, il accorde aussi, du coup, une importance à l'amour. Donc les deux facultés sont conjuguées.
Sur ce point, si je fais un rapprochement avec Augustin, en fait, c'est l'amour qui permet le dépassement. Le verbe transirer ou transilirer qu'on trouve chez Augustin est associé au désir et à l'amour de façon très forte dans les commentaires des psaumes, notamment pour Idita. Il y avait quelques échos, mais c'est pas non plus surprenant vu la lecture de l'importance d'Augustin pour Eckhart.
Bien sûr, auteur majeur. Ouais.
Oui.
Progrès spirituel, je crois que non. Je crois que non. Parce que ce terme de progrès spirituel, il arrivera même plus tard, même l'idée d'un itinéraire spirituel, avec la Devotio Moderna, par exemple, mais pas chez Eckhart. C'est pas une pensée du devenir, mais c'est de l'irruption de l'éternité dans l'instant. Et sa figure, c'est le Christ, c'est l'expérience du Christ qui donne à la nouveauté toujours plus de nouveauté. Donc, il n'y a pas chez Eckhart, j'ai pas parlé de progrès, hein, j'ai parlé de constance du travail de la pensée. Mais je ne crois pas que Eckhart soit une pensée du progrès, parce que c'est une pensée de l'instant, ce moment présent seulement. Voilà, du moment présent. Mais bon, j'impose pas non plus, je fréquente Eckhart un petit peu, mais je n'impose pas ma manière de voir. Je pense juste que, on a fait un colloque, il y a beaucoup de colloques à Metz sur la Devotio Moderna et la mystique rhénane. La Devotio Moderna, c'est tout à fait autre chose. Et il y a bien cette idée de progrès qui va se mettre en place, d'itinéraire avec des étapes très particulières. Jamais chez Maître Eckhart, vous n'avez aucun chemin spirituel chez lui, rien du tout. C'est beaucoup plus aride d'ailleurs, hein. La spiritualité ignatienne, c'est beaucoup plus... j'exagère. Mais il y a des exercices, c'est plus assez... C'est balisé, mais chez Eckhart, c'est très aride au fond, hein. Parce qu'il n'y a vraiment aucun chemin possible, si ce n'est toujours cette nécessité à dépasser. Voilà, incontestablement. Incontestablement. Toujours dépasser pour laisser place à l'instant. Mais bon, je n'impose pas ma manière de voir. Non, c'est l'écho, la résonance. C'est qu'à un moment donné, justement, c'est laisser place à cette parole qui éclate sur les parois de l'âme comme elle éclate sur les parois d'une montagne, mais parole qui finit par disparaître, comme le son. Donc c'est une pensée aussi de l'éphémère. À un moment donné, l'union existe, elle est pleine et entière. À ce moment-là, nous avons l'impression d'exister et d'exister pleinement, mais ça ne dure pas. Voilà. Immédiatement, le temps reprend le cours. Donc, pour moi, ça n'est pas une pensée du progrès. Mais ça peut être discutable.
Oui, allez-y.
Une petite question. Ouais. Ouais. Oui, c'est ce que j'ai dit, c'est une ligne dionysienne, si vous voulez. Si je fais court, qu'est-ce que c'est que la connaissance? C'est dépouiller les choses de leur matérialité, s'élever vers le principe des choses et s'unir à la vérité. Donc c'est et on retrouve, alors pour le coup, on pourrait retrouver une dialectique dans le mouvement de la connaissance. Sauf que chez lui, on n'a pas cette progressivité qu'on a peut-être un peu chez le pseudo-Denis, vous savez, avec tout d'abord la purification, l'illumination et ensuite la perfection, ce qui donnera ensuite les trois stades, voilà. Mais chez lui, en fait, non, parce que c'est commode de le... Si vous voulez, un livre, il faut qu'il soit un peu pédagogique, c'est-à-dire qu'il faut donner une ordonnance. Sauf que si vous lisez ses sermons, vous ne retrouvez pas cette ordonnance. Voilà. Donc chez lui, ce qui est une nécessité, c'est de toujours aller au-delà. Voilà. Après, la deuxième partie, de fait, c'est aussi regroupé. Dans la mesure où il y a quelque chose d'inaccessible, il y a à la fois de l'émerveillement et du désir. Et je crois que ma troisième partie, j'ai voulu montrer que, sans doute, pour lui, ce qui est structurant, et là, ça rassurerait tous ceux qui penseraient qu'Eckhart est quelqu'un d'un auteur sulfureux, au fond, le fondement de tout ça, chez lui, c'est deux choses, sa fréquentation de l'écriture et sa méditation du verbe incarné. Voilà. Donc, c'est pour ça que la dernière partie porte sur la parole. Donc, il y a quand même, chez moi, la volonté de placer les choses tout de même dans un ordre, en gardant une certaine forme de côté fragmentaire que j'assume et que j'ai voulu.
Voilà, ben je crois qu'il va être temps de terminer notre soirée. D'abord, en te remerciant beaucoup pour, et en remerciant tous ceux qui sont venus t'écouter.
Merci.
Vous avez quelques livres donc en vente. Je suppose qu'éventuellement, tu es prêt à faire l'une ou l'autre dédicace si vous souhaitez. Et vous, si vous pouvez aussi éventuellement contribuer aux frais, vous trouvez des urnes à la sortie. Je vous en remercie. Et je vous souhaite une excellente fin de soirée.
Merci. Merci.
D'accord. Bah, écoute, on a eu plein de questions.
Oui, bonsoir. Bien sûr. Ça va bien? C'était lumineux. C'était pas ténébreux.
Merci, Michel. Oui, grand succès, ben c'est bien.
Mais bien quel nom.
Oui, tout à fait. De relire un peu des cartes, mais moi, il y a longtemps que je n'en ai pas lu, effectivement. Oui, mais il l'a dit, il a parlé du vieil allemand. Oh, je sais bien, parce que j'ai aperçu, oui, c'est pas du tout... Enfin, moi, je ne suis pas capable de lire ça en vieil allemand. Oui, bien sûr. Mmh. Oui, bien sûr. D'accord.
Voilà. Bonne soirée.
Moi, ça reste un seul.
Donc, il suffit que je signe ou vous n'avez pas. Ça suffit, mon nom suffit.
Non, c'est une histoire avec lui. Voilà. Très longue. En fait, j'ai commencé mes études de philo à Strasbourg il y a très longtemps, vous en avez parlé.
Ça, c'était le livre précédent.
Et puis j'ai fait ma thèse sur lui, et au fond, c'est le cas.
Vous avez été publié en 2012. Oui, sûrement.
Vous le lisez, je termine un livre, et je me dis, en fait, le livre, le prochain, c'est sur la parole.
Voilà. Oui, il est beau, ça se présente bien.
Donc, c'est infini.
Oui, oui, il est plus sévère, celui-là. Je pense que celui-ci est peut-être plus accessible. Plus accessible, mais je n'ai pas lu vraiment celui-là.
Sûr.
Donc, c'est dans la mesure où, visiblement, vous le connaissez de l'intérieur, vous allez... Oui. Donc dans ces cas-là, vous entrerez sans peine.
Mais il y a un travail.
Oui, je comprends, mais parce que de fait, il fait pas mal de rapprochements avec Jacques Cottet.
Ouais.
Parce qu'il ouvre comme cela, et puis à la fin aussi, enfin, j'ai vu qu'il citait beaucoup. Bah, je vous dis, je n'ai eu le livre qu'une heure entre les mains, mais j'ai...
Parvenir à autant de simplicité en écriture, moi, je trouve que c'est... Qu'est-ce qu'il faut avoir écrit beaucoup pour parvenir à telle économie de mots. Je ne sais pas si vous lisez un peu l'allemand. Non, c'est-à-dire qu'en fait, quand je regarde, quand je vois comment il cisèle quelques mots et qu'il arrive à donner avec... En fait, pour moi,